Bonjour, nous sommes le vendredi 29 janvier 2010 et aujourd'hui nous allons parler du président et de ses victimes. Le lundi 25 janvier, le président de la République s'est présenté devant un panel soigneusement sélectionné par la chaîne de télévision TF1. En fait, ce panel se composait des victimes de la politique qui mène depuis des années dans diverses fonctions. Certes, il n'est pas le seul responsable de la politique en question, car ses prédécesseurs, qu'ils se nomment Giscard d'Estaing, Chirac ou Mitterrand, ont également créé ou maintenu les calamités dont les victimes se trouvaient devant lui. Sa responsabilité, cependant, est bien plus grande que celle de ses prédécesseurs. En effet, lors de son élection en 2007, il avait toute possibilité de rompre avec le socialisme d'une façon rapide et totale en réalisant la nécessaire libération du peuple français. Il ne l'a pas fait et s'est contenté de gesticuler en France et à l'étranger sans faire aucune vraie réforme sauf à la marge. Voici la description rapide de quelques membres du panel. Nathalie, 26 ans, bac plus 5 en marketing, chômeuse. Pierre, cégétiste breton dans la filière auto, a pleuré sur les licenciements et la liquidation des entreprises. Bernadette, mère de famille, employée dans les grandes surfaces, n'a bénéficié ni des baisses d'impôts, ni de la revalorisation des bourses d'État, ni des aires supplémentaires. Jimmy, patron routier à Douai, s'est attaqué à la taxe carbone et aux difficultés d'obtenir du crédit. Sophie, productrice de lait dans le Tarn, la misère est telle qu'elle ne se paye plus depuis un an. Samir, professeur contractuel à Gagny, son contrat est renouvelé chaque année et il voudrait bien être titularisé pour échapper à l'incertitude. Marguerite, senior au chômage depuis 5 ans. Elodie, auto-entrepreneuse, se plaint de dysfonctionnement du système. Martine, infirmière aux urgences, dans son hôpital, le drame est tel qu'elle soigne les patients dans le couloir. Jean-Georges, retraite parfaitement misérable, après pourtant une carrière intéressante. Par suite de malheur juridique, son appartement a été saisi et le voici à la rue. Devant ce panel, une première remarque vient à l'esprit. Sur les 11 personnes censées représenter soi-disant le peuple français, il n'y avait sauf erreur qu'un seul fonctionnaire, à savoir le professeur contractuel. Il y a bien, ainsi, deux Frances tout à fait distinctes. D'un côté, la France d'en haut, c'est-à-dire de l'activité publique. Au sommet se trouvent les privilèges insensés et la richesse insolente. Les exécutants bénéficient de la semaine des 32 heures, de salaires confortables, de revalorisations automatiques, de retraites abusives, d'un absentéisme spectaculaire et de l'habitude d'empoisonner la vie des autres dans un exercice abusif du droit de grève. De l'autre côté se trouve la France d'en bas, c'est-à-dire des privés. Eux seuls créent les richesses faisant vivre tous les autres. Elles souffrent tragiquement des calamités créées par la France d'en haut, laquelle exerce un pouvoir quasi totalitaire dans le cadre d'une démocratie régulièrement trafiquée. Le fonctionnaire présent était donc un enseignant. Personne ne peut nier l'importance de l'enseignement. Toutefois, nous connaissons l'immensité et l'inefficacité de la prétendue éducation prétendue nationale. Le président a promis de porter remède à la non-titularisation alors que la France croule littéralement sous le nombre des fonctionnaires. Le cégétiste faisait un peu pitié. Il se croyait en effet obligé de paraître indéfiniment grognon. Cette posture repose sur un pacte non écrit du bibartisme à la française. Monsieur Sarkozy serait un homme de droite et de ce fait un cégétiste se devait de critiquer comme il le fait couramment à l'égard des hommes de droite. Or si le président a été élu par des voix plutôt de droite, il est clairement un homme de gauche. J'ai montré ailleurs comment il a fait progresser le socialisme en France d'une façon absolument spectaculaire et à un point que Madame Ségolène Royal n'aurait pas atteint. D'ailleurs, il avait pris la précaution de s'entourer à des postes importants de ministres socialistes et dès son arrivée au pouvoir, il a ouvertement donné les clés de la maison aux syndicats. Les syndicats comptent dans la France d'en haut. Quelques jours après le 15 janvier, le président s'est rendu à Davos pour proclamer spectaculairement sa méfiance à l'égard de l'économie de marché, et ceci à la surprise médusée de l'auditoire. Devant l'exposé des calamités qui parfois prenaient un aspect véritablement douloureux, il a bien su jouer le grand jeu de la compassion vis-à-vis de ses victimes. Sur ce point-là, donc, bravo. L'orchestre officiel, tout aussitôt après l'émission, s'est émerveillé du talent présidentiel dont sa connaissance des dossiers jusque dans les plus petits détails. Il n'a pas été dit que depuis plusieurs jours, un grand nombre de conseillers travaillant avec de l'argent public avaient préparé des fiches et diverses questions qui devaient être traitées. L'ouragan des lois qui ruine la France est si impétueux que personne, sauf mise à jour précise et préalable, ne peut s'y retrouver dans la jungle. Les courtisans se sont aussi félicités de l'audience comme si cela avait de l'intérêt pour les victimes. Certains lecteurs de ces flashs pensent parfois que les calamités sont hélas si nombreuses que le chemin pour en sortir n'existe plus. Eh bien, ce n'est pas exact du tout, car il y a toujours un chemin. Par exemple, le président a promis que le chômage s'améliorerait bientôt, et dès le lendemain, d'ailleurs, il a reçu des démentis. Son optimisme apparent repose sur une double idée folle. Il irait créer de la croissance, ce qui n'est pas vrai car la croissance ne peut pas se créer de toutes pièces, et cette croissance permettrait de réduire le chômage, ce qui est faux. Si les observateurs sont sceptiques, c'est précisément parce qu'ils savent qu'il ne va pas du tout supprimer les freins actionnés depuis longtemps par les pouvoirs publics pour détruire l'emploi. Citons, dans le désordre, les 35 heures, la quasi-impossibilité de licencier facilement, les droits de succession, l'ISF, les charges sociales, la déferlante de tous les impôts et bien d'autres. Les remèdes aux calamités et parmi celles-ci au chômage existent et sont connus. La seule condition pour les administrer, c'est la volonté de le faire, et pour cela, il faut être clair dans sa tête. Contrairement à l'opinion commune, complaisamment nourrie par la propagande publique, ce ne serait pas du tout une politique de rigueur pour la France d'en bas, bien au contraire. La rigueur serait pour la France d'en haut, les politiques eux-mêmes et le groupe des prédateurs publics au sommet de l'État devraient renoncer aux formidables avantages et richesses que leur fournit le partage du butin de la République et qui représente de 5 à 10% du PIB. Cela explique que tout remède efficace reste enfoui dans les tiroirs et que l'oppression du pouvoir quasi-totalitaire au profit de quelques-uns génère toutes les calamités qui écrasent la France d'en bas. Chers amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain.